Je passe maintenant à la présentation de la conférence de ce soir. Elle est donnée par M. Patrick Couvreur, qui est professeur à l'Université de Paris Sud, directeur de l'école doctorale Innovation thérapeutique et directeur de l'unité de recherche mixte CNRS physico-chimie, pharmacotechnie et biopharmacie. Il a un diplôme de pharmacien de l'Université catholique de Louvain. Il est docteur en sciences pharmaceutiques de l'Université catholique de Louvain. Il a fait la première partie de sa carrière à l'Université catholique de Louvain, où il a été assistant, chef de travaux agrégé. Et depuis 1984, il est professeur titulaire à l'Université Paris-Sud, ex-Orsay. Ses recherches concernent principalement la vectorisation des médicaments. Il fut le premier à introduire le concept de vecteur nanoparticulaire biodégradable pour l'administration de molécules biologiquement actives. Et ces recherches ont conduit, entre autres, à proposer un certain nombre de vecteurs galéniques, nanoparticules, liposomes, etc., pour l'administration de peptides ou d'acides nucléiques. Il est l'auteur de publications tout à fait scientifiques, tout à fait nombreuses dans des revues internationales avec des comités de lecture. Il est l'auteur de 6 ouvrages, dont l'un sur les vecteurs particulaires polymériques et 2 sur les liposomes. Il a reçu de très nombreux prix et distinctions en Belgique, en Angleterre et ailleurs dans le monde. Donc je vais lui donner la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite, bien sûr, il répondra comme d'habitude à vos questions. Je vous remercie. Patrick Couvreur, c'est à vous.
Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, tout d'abord un grand merci à l'Université de tous les savoirs de m'avoir donc invité aujourd'hui pour vous faire une conférence, comme vous le voyez, sur les nanotechnologies et, je dirais d'une manière générale, la conception des nouveaux médicaments. Alors, je vais essayer aujourd'hui avec vous de voir un petit peu dans quelle mesure ces nanotechnologies, ou je dirais ces systèmes submicroscopiques, sont capables de maîtriser à la fois la distribution tissulaire, la distribution cellulaire et la distribution subcellulaire de médicaments. Alors, avant de passer, je dirais, dans le vif du sujet, eh bien, je voudrais introduire avec vous la notion de vectorisation des médicaments. En effet, c'est dans ce domaine que les nanotechnologies vont être particulièrement utiles. Alors, vous le savez probablement, lorsque l'on va administrer, vous le voyez ici, une molécule biologiquement active, un médicament, eh bien, vous le voyez, cette molécule se caractérise par un certain nombre de caractéristiques physico-chimiques, comme par exemple ce que l'on appelle en jargon le pKa, la lipophilie, la fixation aux protéines, et c'est finalement la structure chimique de cette molécule qui va définir, vous le voyez, sa distribution dans l'organisme et son élimination. Et il est évident que bien souvent, malheureusement, quand on synthétise une nouvelle molécule, eh bien, cette molécule peut être active, par exemple, sur un récepteur, in vitro sur un gène pathogène, mais in vivo, malheureusement, le médicament ne va pas aller se distribuer au niveau de la cible pharmacologique, c'est-à-dire au niveau de l'organe infecté, au niveau de la tumeur, au niveau des cellules tumorales, au niveau du compartiment subcellulaire. Alors, eh bien, pour essayer de réaliser, je dirais, un meilleur ciblage, une meilleure vectorisation de cette molécule, on peut bien entendu changer les propriétés physico-chimiques de la molécule et introduire dans cette molécule, vous le voyez, des groupements R1, R2 qui vont par exemple augmenter l'hydrophilie ou augmenter la lipophilie et donc modifier la distribution. Mais vous savez comme moi que si vous faites ce que l'on appelle du drug design, c'est-à-dire si vous modifiez la formule chimique d'un principe actif, d'un médicament, ben, vous allez aussi modifier son activité pharmacologique d'une part et d'autre part éventuellement sa toxicité. Et donc il y a actuellement une deuxième stratégie que vous voyez représentée ici et qui consiste à dire, eh bien, on va associer cette molécule à une nanotechnologie, à ce que l'on appelle un vecteur de médicaments, à des systèmes submicroscopiques qui eux-mêmes vont avoir un certain nombre de caractéristiques physico-chimiques. Par exemple, une taille, on va en parler, des caractéristiques de lipophilie ou d'hydrophilie, des charges de surface, éventuellement des stabilités, une stabilité bonne ou moins bonne dans tel ou tel milieu biologique. Et finalement, l'idée, c'est que finalement, ce vecteur de médicaments va masquer, si vous voulez, les propriétés physico-chimiques de la molécule, va se substituer aux propriétés physico-chimiques de la molécule pour déterminer la distribution tissulaire, cellulaire et subcellulaire du médicament. En d'autres termes, si vous êtes bon chimiste ou bon physico-chimiste et que vous arrivez à régler, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, les caractéristiques physico-chimiques d'un vecteur de médicament, vous allez probablement arriver à maîtriser la distribution de ce médicament dans l'organisme. Et c'est là, je dirais, tout le grand défi, tout le grand challenge des nanotechnologies comme système pour la conception de nouveaux médicaments. Alors, pour être un petit peu plus précis, quels sont finalement ces outils, ces vecteurs de médicaments qu'on peut utiliser pour cibler des tissus, des cellules, des compartiments subcellulaires? Eh bien, premier type de vecteur, c'est ce que vous voyez ici en rouge, ce sont les liposomes. Les liposomes, comme vous le voyez, sont en fait des vésicules de phospholipides qui s'organisent, vous le voyez, avec des bicouches de phospholipides qui vont encapsuler, vous le voyez, un ou éventuellement plusieurs compartiments aqueux. Alors, ce sont des vecteurs, ce sont des systèmes submicroscopiques qui ont une taille de l'ordre, disons, de 0,1, 0,2, 0,3 microns. Pour vous donner une idée, la taille d'un globule rouge, c'est 7 microns. Donc, on va travailler sur des systèmes qui vont avoir une taille à peu près 70 fois plus petite qu'un globule rouge. Alors, on ne peut évidemment pas voir ces objets ni à l'œil nu, ça va de soi, ni en microscopie optique, on doit faire de la microscopie électronique, et vous en avez un exemple ici. Vous voyez très très bien un liposome avec un certain nombre de bicouches de phospholipides qui entourent un compartiment aqueux, et on va pouvoir dissoudre le médicament à vectoriser, soit dans le compartiment aqueux, soit dans la bicouche, s'il est lipophile, dans la bicouche de phospholipides. Alors, les liposomes ont un certain nombre d'avantages, d'inconvénients. Il faut savoir qu'ils ne sont pas toujours très stables dans les liquides biologiques. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, les chimistes se sont intéressés à un autre type de système que l'on appelle des nanoparticules. Ce sont également des systèmes submicroscopiques qui sont aussi de l'ordre, qui ont une taille, je dirais, de l'ordre de 0,1 ou 0,2 microns, et qui, comme vous le voyez, sont préparés à l'aide de polymères généralement biodégradables. Pourquoi biodégradables? Eh bien, parce que je vais vous montrer que ces systèmes submicroscopiques rentrent de manière relativement profonde dans les tissus, rentrent dans les compartiments cellulaires, dans les compartiments subcellulaires, et bien entendu, on doit avoir recours à des polymères qui vont être biodégradés et éliminés, bien entendu, métabolisés, éliminés de l'organisme, pour éviter, bien entendu, tous les problèmes de toxicité qu'on pourrait avoir par accumulation, par thésaurismose dans certains organes, dans certains tissus. Alors, il y a deux types de systèmes nanoparticulaires. Tout d'abord, comme vous le voyez ici, on peut préparer ce que l'on appelle des systèmes réservoirs, que l'on appelle aussi des nanocapsules. Et où, vous le voyez, on va avoir un compartiment central qui peut être soit une phase huileuse, soit une phase aqueuse, et qui va être réellement encapsulé, vous le voyez ici en jaune, par un polymère biodégradable. Donc vous voyez que la chimie des polymères, la chimie de synthèse des polymères, est évidemment quelque chose de très important pour concevoir ces objets de type réservoir que l'on appelle nanocapsules, et que vous voyez ici visualisés en microscopie après cryofracture, et où vous voyez que le cœur huileux ou aqueux est évidemment congelé. Il va contenir le médicament que l'on veut vectoriser. Et vous voyez qu'à l'interface, ici, eh bien, vous avez une fine membrane de polymère biodégradable. Et on peut mesurer la taille de cette membrane qui va avoir une épaisseur de l'ordre, disons, de 2, en gros, de 2 à 5 nanomètres. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans ce que l'on appelle les nanotechnologies. Alors, à côté de ces systèmes dits réservoirs, eh bien, on peut préparer aussi des systèmes, vous le voyez, matriciels. C'est ce que vous voyez ici. Vous avez là aussi une cryofracture, un examen en microscopie électronique. Et vous voyez que là, l'organisation du polymère biodégradable est un tout petit peu différente, puisqu'on a en fait, vous le voyez, un enchevêtrement de chaînes polymères. Et le médicament va être en fait, vous le voyez ici, dispersé à l'état moléculaire dans cette matrice polymère. Et c'est en se biodégradant, c'est en se bioérodant que cette matrice polymère va libérer le médicament au niveau du site d'action. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce que j'appellerais les vecteurs de première génération, qui sont, vous le voyez, des vecteurs diverses et variés, à base de polymères, à base de phospholipides, dans tous les cas avec des tailles extrêmement petites, de l'ordre de 0,1 à, disons, maximum 0,5 microns. Alors aujourd'hui, je voudrais voir un petit peu avec vous comment, après administration intraveineuse, c'est-à-dire comment, après administration dans le torrent circulatoire, par voie intravasculaire, ces nanotechnologies vont permettre de maîtriser tout d'abord la distribution tissulaire des médicaments. Et puis on abordera le problème de savoir si on va pouvoir moduler, maîtriser la distribution cellulaire, et puis on ira encore vers le plus petit au niveau biologique, et on verra si on peut maîtriser la distribution subcellulaire. Voie intraveineuse, maîtrise de la distribution tissulaire. Alors, la première question que l'on peut se poser, c'est nanotechnologie, ces nanoparticules, ces liposomes, comment se distribuent-ils après administration intraveineuse? Alors, pour répondre à cette question, eh bien, on peut faire ce que l'on appelle des autoradiographies, c'est-à-dire que l'on va marquer les vecteurs, par exemple au carbone 14, on va les injecter à des animaux de laboratoire et on va essayer de voir quelle est finalement la distribution tissulaire de ces systèmes. Et vous voyez très très bien ici un exemple. On voit très bien que ces vecteurs vont se concentrer au niveau du foie. Vous voyez très bien ici les deux lobes hépatiques. Au niveau, dans une moindre mesure, de la rate, c'est le petit triangle que vous voyez là. Et un petit peu moins encore au niveau de la moelle. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que la distribution est essentiellement hépatosplénique. C'est le foie qui est le principal tissu, le principal organe qui va capter ces vecteurs, je dirais, de manière naturelle et spontanée. Une toute petite remarque au niveau de cette diapositive, de cette autoradiographie. Vous voyez dans la partie supérieure ici, vous voyez que le rein est également marqué. Eh bien, le rein est marqué parce qu'on a utilisé, comme je vous l'expliquais, un polymère biodégradable qui effectivement est excrété quand il est métabolisé, quand il a relargué son médicament. Eh bien, il est excrété par le rein et ensuite via la voie urinaire. Donc, on a une distribution principalement hépatique et une excrétion, je dirais, principalement rénale. Alors, comment se fait-il que ces vecteurs, que ces nanoparticules, que ces liposomes se concentrent effectivement au niveau du foie? Eh bien, pour cela, il faut savoir que quand on fait une administration intraveineuse, comme vous le voyez ici, eh bien, on va en fait amener, vous le voyez, dans la circulation générale, dans le torrent circulatoire, ces systèmes liposomes, ces systèmes nanoparticulaires. Et sur le plan purement physique, ces systèmes, qui encore une fois sont issus des nanotechnologies, vont développer des surfaces spécifiques qui sont absolument considérables. Vous pouvez faire un calcul très simple. Si vous avez des nanoparticules qui font un diamètre de 100 nanomètres, eh bien, la surface d'un gramme de ces particules va représenter à peu près 100 mètres carrés. Donc, vous voyez que c'est considérable, et je dirais toute la clé de la distribution, elle se situe au niveau de l'interface entre la surface de ces vecteurs et, bien entendu, les protéines plasmatiques. Et dès qu'on va injecter ces vecteurs dans la circulation, eh bien, vous voyez, vous avez toute une série de protéines plasmatiques que vous voyez ici en jaune qui vont en fait venir s'absorber à la surface des particules, à la surface des liposomes. Et parmi ces protéines plasmatiques, vous le voyez, il y a ce que l'on appelle des opsonines. Alors, les opsonines, c'est quoi? Eh bien, vous le voyez, ce sont les fragments FC des immunoglobulines, ça peut être la fibronectine, ce sont également les éléments du complément. C'est un petit peu complexe, tout cela. Ce qu'il faut retenir et ce qui est important, c'est que finalement, l'organisme va marquer, va amener, je dirais, une véritable signature moléculaire à la surface de ces liposomes, à la surface de ces particules. Et cette signature moléculaire, finalement, va faire dire par l'organisme que ces vecteurs, que ces particules, que ces liposomes, c'est du non-soi. Ce sont, je dirais, des éléments qui n'appartiennent pas à l'individu. Et donc, tout ceci enclenche, bien entendu, vous l'imaginez, une réaction dite d'opsonisation, c'est-à-dire une reconnaissance de ces systèmes par l'organisme. Alors, tout simplement, un mot simplement de physico-chimie pour vous expliquer pourquoi et comment, d'un point de vue physico-chimique, une protéine peut s'absorber à la surface d'un liposome ou d'une nanoparticule. Vous savez que les protéines plasmatiques peuvent avoir ce que l'on appelle des régions hydrophiles, qu'on peut représenter comme ceci, et puis d'autre part des régions hydrophobes. Eh bien, les régions hydrophobes des protéines vont avoir tendance à interagir avec la surface hydrophobe des vecteurs, que ce soit des liposomes ou que ce soit des nanoparticules. Et c'est ceci qui va constituer les phénomènes d'adsorption, parce que vous avez des interactions hydrophobes entre la surface du vecteur et la surface de ces protéines plasmatiques, que sont notamment, encore une fois, les opsonines. Donc l'injection de ces vecteurs va entraîner, je dirais, un marquage moléculaire par ces opsonines, et c'est finalement, comme vous le voyez ici, ce marquage moléculaire qui va expliquer, qui va expliciter la distribution particulière de ces systèmes pour notamment le foie et notamment les macrophages du foie. Pourquoi ? Eh bien parce que vous le voyez très bien, au niveau des macrophages du foie, vous avez un certain nombre de récepteurs que j'ai représenté ici. Ces récepteurs ont des noms un petit peu compliqués. Vous voyez, ce sont les récepteurs FCR1, FCR2, qui sont en fait des récepteurs qui reconnaissent les fragments FC des immunoglobulines. Vous voyez qu'il y a des récepteurs CR1 qui reconnaissent certains éléments du complément. Et vous avez, vous le voyez aussi, des récepteurs à fibronectine. Et finalement, ces liposomes, ces nanoparticules qui ont été, je dirais, décorées par des opsonines, eh bien, via ces opsonines, elles vont permettre la reconnaissance spécifique de ces macrophages situés au niveau du foie. Et donc, voilà pourquoi, lorsqu'on injecte ces vecteurs de première génération, ils sont reconnus par les macrophages du foie. Et quand un macrophage hépatique reconnaît une particule, et c'est vrai aussi pour une bactérie, eh bien, vous allez avoir des phénomènes, je dirais, d'internalisation, c'est-à-dire que la cellule va s'invaginer, la membrane cellulaire va s'invaginer, il va y avoir un processus d'endocytose, et on va retrouver ces liposomes, ces nanoparticules opsonisées dans des vacuoles d'endocytose à l'intérieur de la cellule. Donc voilà, je dirais, le mécanisme intime de la distribution de ces vecteurs à l'échelle, je dirais, moléculaire de reconnaissance d'un récepteur. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des macrophages qui sont distribués un petit peu partout dans la circulation. Pourquoi est-ce que ce sont surtout les macrophages du foie qui vont capter ces systèmes ? Et ceci vous est expliqué par la diapositive suivante. Et cela résulte un petit peu d'une explication qui n'est pas cette fois-ci uniquement moléculaire, mais qui est aussi histologique. Il faut savoir, comme je l'ai représenté ici, que lorsque vous injectez des nanoparticules, des liposomes, et que ces systèmes vont être opsonisés, eh bien que ces systèmes ne vont pas pouvoir passer à travers la paroi des vaisseaux, c'est-à-dire à travers l'endothélium vasculaire de la plupart des tissus. Parce qu'il faut savoir que l'endothélium vasculaire de tissus normaux, eh bien c'est un endothélium qui est parfaitement continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de passage, comme je vous l'ai représenté au niveau, vous voyez ici, de cet endothélium continu dans un tissu sain. Alors, il y a une exception à cela, vous le voyez ici, c'est le foie, parce que le foie, il a un endothélium discontinu. Et du fait que l'endothélium hépatique est discontinu, eh bien, ces fameux macrophages que j'ai représentés ici au niveau du foie vont être au contact direct de la circulation générale et ils vont reconnaître, via leurs récepteurs, vous le voyez, ces fameux liposomes, ces fameuses nanoparticules, ces fameux vecteurs de première génération qui ont été opsonisés. Et donc, voilà pourquoi, quand vous prenez un liposome, quand vous prenez une nanoparticule, que vous l'injectez par voie intravasculaire, eh bien, ces systèmes vont se concentrer naturellement au niveau du tissu hépatique et plus spécifiquement au niveau des macrophages du tissu hépatique. Alors, ça n'est pas seulement de la théorie, et vous le voyez sur la diapositive suivante, que ça correspond bien à la réalité. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? Eh bien, on a tout simplement injecté à des animaux de laboratoire des nanoparticules par voie intraveineuse. Et puis, on a fait des biopsies hépatiques, c'est-à-dire qu'on a prélevé le tissu hépatique. Et vous voyez que l'on retrouve ici, vous voyez, ça c'est une vacuole d'endocytose que vous voyez là. Et dans cette vacuole, eh bien, vous avez un nombre considérable de nanoparticules. Et donc, c'est là que les nanoparticules vont libérer le médicament qu'elles vont éventuellement transporter. Et vous voyez bien, ceci est une cellule de Kupffer, vous voyez le noyau de cette cellule de Kupffer. La cellule de Kupffer est encore une fois le macrophage hépatique. Et donc, vous voyez que ces particules vont se concentrer de manière considérable dans les macrophages du foie, par un processus, finalement, d'opsonisation et de reconnaissance spécifique. Alors, bien entendu, toute une série de groupes de recherche se sont dit, mais c'est formidable, parce que quand on veut traiter des pathologies hépatiques, eh bien, on va associer des médicaments à ces vecteurs de première génération, et ces médicaments, on va les vectoriser au niveau du foie, et on va pouvoir avoir une activité thérapeutique tout à fait intéressante. Et simplement pour vous illustrer cette approche, eh bien, je voudrais vous expliquer un petit peu ce qui a été fait dans notre laboratoire il y a quelques années pour le traitement des métastases hépatiques. Vous savez que les métastases hépatiques, dans le domaine du cancer, c'est quand même une pathologie extrêmement sévère, extrêmement sérieuse, et qu'on traite généralement avec des anticancéreux, comme par exemple, vous le voyez ici, avec la doxorubicine, qui est un médicament anticancéreux qui est relativement efficace. Alors, pour étudier l'efficacité du système vectorisé versus la formulation conventionnelle de doxorubicine, eh bien, vous le voyez, on va induire chez des animaux de laboratoire un certain nombre de métastases hépatiques. Et vous voyez que si les animaux ne sont pas traités, c'est ce que vous voyez au niveau du premier histogramme, eh bien, ils vont développer, après un certain temps, environ entre 120 et 150 métastases. Et puis, on va traiter ces animaux, vous le voyez ici en vert, avec des doses croissantes de doxorubicine, de ce médicament anticancéreux, sous forme d'un injectable traditionnel, forme galénique traditionnelle. Et qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, vous voyez qu'à 2,5 mg par kilo, on n'a pas d'inhibition du nombre de métastases. On n'a pas pu traiter ces métastases. À 5 mg par kilo, vous voyez que là, on va réduire le nombre de métastases hépatiques, à 7,5 mg par kilo aussi, à 10 mg par kilo aussi. Donc, c'est un bon médicament. Mais vous voyez là tout le problème du traitement du cancer avec les anticancéreux traditionnels, c'est qu'il faut atteindre des doses de 5 et surtout de 7,5 mg par kilo. Et à partir de 7,5 mg par kilo, voire 10 mg par kilo, sur cette souche d'animaux, eh bien on a des animaux qui vont mourir, non pas de leur métastase hépatique, mais de la toxicité du médicament. Donc vous voyez qu'on a une fenêtre thérapeutique avec les anticancéreux qui est extrêmement étroite. Si on a des doses trop faibles, on n'est pas actif. Si on a des doses trop fortes, on a une toxicité qui peut être même éventuellement, je dirais, mortelle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a, notamment parce que la doxorubicine a une toxicité cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, vous le voyez, on a associé la doxorubicine à des vecteurs nanoparticulaires, à des nanoparticules biodégradables, en rouge. Et vous voyez que dans ces conditions, déjà à 2,5 mg par kilo, eh bien on inhibe d'à peu près 60 à 70% le nombre de métastases hépatiques. Et à 5 mg par kilo, eh bien on a pratiquement guéri les animaux, mais dans tous les cas, éliminé l'essentiel des métastases que l'on peut voir de manière macroscopique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 7,5 et à 10 mg par kilo, eh bien on a aussi réduit la toxicité cardiaque de ce produit de manière tout à fait considérable. Alors, quand on fait, je dirais, ces essais chez l'animal de laboratoire, on ne fait pas, bien entendu, que compter des métastases, mais on va aussi faire de l'histologie, c'est-à-dire qu'on va prélever tout simplement, je dirais, le tissu hépatique avec, bien entendu, les métastases. Alors, vous voyez qu'ici, on a traité les animaux avec la forme conventionnelle de la doxorubicine, qui était... Donc les souris ont été traitées à une dose de 5 mg par kilo. Et vous voyez que vous avez énormément de cellules cancéreuses aux alentours d'un sinusoïde hépatique. Vous les reconnaissez bien, ce sont en fait des grosses cellules qui sont en division. Et vous voyez qu'avec la même dose ici de 5 mg par kilo de doxorubicine vectorisée par les nanoparticules, eh bien, vous voyez, on a encore des micrométastases, mais vous voyez que ces métastases sont beaucoup moins étendues. Et donc, on a, je dirais, un profil histologique qui correspond parfaitement au comptage des métastases que je vous avais montré dans la diapositive précédente. Alors, ceci n'est qu'un exemple, Mais ça vous montre bien que ces vecteurs de première génération, que ces nanotechnologies, peuvent servir à vectoriser des médicaments vers le tissu hépatique et à traiter un certain nombre de pathologies hépatiques, dont notamment les métastases hépatiques. Ce type de vecteur est d'ailleurs actuellement développé par une société et est actuellement en clinique phase 2. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas que des tumeurs au niveau hépatique. Et vous aurez évidemment parfaitement raison de dire cela. Et je vais vous donner un exemple qui vous montre un peu le verrou technologique devant lequel on s'est trouvé. Ceci, c'est de nouveau une autoradiographie, mais cette fois-ci, vous le voyez, on a greffé par voie sous-cutanée au niveau d'un animal de laboratoire, en l'occurrence un rat, une tumeur solide, un sarcome des tissus mous. On a injecté, vous le voyez, des nanoparticules marquées au carbone 14, et vous voyez le problème, ces particules vont amener leurs médicaments au niveau du foie et pratiquement pas au niveau de la tumeur. Donc là, quand la tumeur n'est pas à localisation hépatique, on a difficile à vectoriser un médicament vis-à-vis de cette tumeur. Et je peux vous dire que pendant un certain nombre d'années, la plupart des chercheurs se sont réellement trouvés dans ce domaine face à un verrou technologique. Et je dirais, ce qui est assez formidable, c'est que finalement, ce qui a permis de lever ce verrou technologique, c'est un concept de physico-chimie extrêmement fondamental. Et c'est un point sur lequel je voudrais insister, c'est que finalement, c'est l'interdisciplinarité qui permet de faire des progrès formidables dans le domaine de la conception de nouveaux médicaments. Et c'est parfois des concepts, je dirais, de base, fondamentaux en physico-chimie, qui permettent de donner aux chercheurs qui font de la vectorisation des idées nouvelles pour lever ce type de verrou à la fois technologique et biologique. Alors, en fait, ce qui nous a sauvés dans cette affaire-là, c'est le concept de répulsion stérique. Et je dirais que la logique était de se dire, si on veut que ces systèmes vecteurs aillent ailleurs qu'au niveau du foie, comme on sait que ce sont les phénomènes d'opsonisation qui sont évidemment responsables de la capture hépatique et de la reconnaissance par le foie, il faut empêcher l'opsonisation. En d'autres termes, comme vous le voyez ici, il faut empêcher que les protéines plasmatiques, les opsonines ici en jaune, ne s'approchent de la surface des liposomes ou des nanoparticules. Et la grande idée des physico-chimistes a été de dire, eh bien, il suffit de faire, je dirais, de la répulsion stérique, c'est-à-dire de greffer en surface de ces nanovecteurs des polymères hydrophiles pour empêcher les interactions hydrophobes telles que je vous les ai montrées au début de ma conférence. Donc, on va greffer des polymères hydrophiles qui sont, en plus, vous le voyez, flexibles et qui vont avoir un effet de répulsion stérique vis-à-vis des opsonines plasmatiques. C'est le concept de la répulsion stérique et, vous le voyez, de la disopsonisation, c'est-à-dire de l'empêchement de ce marquage moléculaire des vecteurs par les opsonines plasmatiques. Alors, avec le groupe de Jean D'Angelo à Châtenay-Malabry et Didier Desmael, eh bien, on a essayé d'appliquer cela à la technologie des systèmes nanoparticulaires. On a développé des nanoparticules avec, sur lesquelles on a greffé, par des techniques diverses et variées, des polyéthylènes glycol, qui sont donc des polymères très hydrophiles, flexibles, et qui exercent réellement une protection à la surface de ces systèmes nanoparticulaires contre l'opsonisation. Alors, est-ce que ça marche? Eh bien, pour cela, on a fait l'expérience suivante. Vous voyez dans la partie A de la diapositive, eh bien, on a pris des nanoparticules non recouvertes de PEG, de première génération, qu'on va appeler maintenant non pégylées, si vous voulez. Et on a incubé ces particules, vous le voyez ici, avec du fibrinogène, qui est une protéine. Pourquoi le fibrinogène? Simplement parce que c'est une grosse protéine que l'on peut voir en microscopie électronique après cryofracture. Et vous voyez que si on prend ces nanoparticules et qu'on les incube avec du fibrinogène, eh bien, pour ceux qui ont de bons yeux, mais vous pouvez me faire confiance, eh bien, on va retrouver ces molécules de fibrinogène à la surface des particules. Vous voyez bien que vous avez un effet clair d'opsonisation, de marquage de ces particules. Maintenant, en B, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a utilisé le polymère pégylé. C'est un copolymère qui est une partie hydrophile de polyéthylène glycol. Encore une fois, que j'appellerai maintenant pour la suite de la conférence des polymères pégylés ou des nanoparticules pégylées. On a incubé à nouveau ces nanoparticules, vous le voyez ici, avec le fibrinogène, et vous voyez que la surface est parfaitement lisse, c'est-à-dire qu'on a effectivement repoussé les protéines plasmatiques. Et on retrouve d'ailleurs les protéines plasmatiques, vous voyez là et là, je dirais, dans la phase aqueuse. Idem, si vous regardez les profils qui sont là, vous voyez qu'on a évité les processus d'opsonisation. Alors vous allez me dire, mais ça, ce n'est pas dans l'organisme vivant, c'est in vitro. Si on évite les processus d'opsonisation, est-ce qu'effectivement on va changer la distribution de ces vecteurs et donc la distribution des médicaments qu'ils véhiculent après administration à l'organisme vivant? Eh bien, la réponse est oui. Et là, je vous donne un exemple, simplement pour changer de genre, avec les liposomes, petites vésicules de phospholipides. Et vous le voyez, on a fait ici une étude de ce que l'on appelle la clairance plasmatique. Alors, c'est un terme un petit peu compliqué qui veut dire simplement qu'on va mesurer, vous le voyez, au cours du temps, les concentrations plasmatiques en vecteurs. Donc, dans, là, je dirais, en intravasculaire. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, vous voyez que si vous injectez des liposomes de première génération non décorés de PEG, ces liposomes sont opsonisés, ils vont dans le foie, et donc ils disparaissent très très vite de la circulation générale. Et vous voyez qu'on a ici une échelle qui est logarithmique. Donc c'est extrêmement rapide, quelques minutes. Inversement, vous voyez qu'en rouge, on a repris les mêmes liposomes, mais on leur a mis du polyéthylène glycol. J'ai repris ça d'un groupe japonais qui a réalisé cela. Et vous voyez qu'à ce moment-là, eh bien, ces liposomes vont tourner beaucoup plus longtemps dans la circulation générale. Et on va parler de liposomes pégylés, on va aussi parler de liposomes furtifs. Pourquoi furtifs? Eh bien, parce que je dirais que ces découvertes ont été faites un tout petit peu après la guerre du Golfe. Alors, un petit peu comme les avions furtifs qui ne sont pas reconnus par les radars, eh bien, vous avez des vecteurs furtifs qui ne sont pas reconnus par les radars, que sont les macrophages et leurs récepteurs pour la fibronectine, pour les fragments FC des immunoglobulines et, je dirais, pour les éléments du complément. Donc, vous voyez qu'en changeant simplement la décoration de surface de ces liposomes ou de ces nanoparticules, eh bien, on va avoir des systèmes qui vont tourner beaucoup plus longtemps dans la circulation. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du foie, eh bien, vous voyez que les vecteurs, les liposomes de première génération non pégylés, ils vont être captés immédiatement par le foie de manière massive, et vous voyez que ça se fait en quelques minutes, alors qu'en rouge, si on recouvre ces liposomes de polyéthylène glycol, on a une capture hépatique qui n'est pas nulle, mais qui est quand même très fortement réduite, parce que ces systèmes vecteurs vont tourner beaucoup plus longtemps dans la circulation générale. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'avoir des systèmes qui tournent longtemps dans la circulation générale? Premier intérêt, c'est que vous allez pouvoir éventuellement traiter des pathologies, je dirais, du sang ou du plasma, en libérant, par exemple, des peptides, des protéines, des acides nucléiques dans ce compartiment, je dirais, sur le long terme, puisque ce sont des vecteurs furtifs. Mais un autre intérêt, eh bien, c'est qu'il résulte du caractère, encore une fois, de l'histologie particulière de l'endothélium vasculaire tumoral ou infecté ou inflammé. Pourquoi? Eh bien, parce que vous voyez que si on injecte ces liposomes, nanoparticules pégylées deuxième génération dans la circulation générale, quand vous êtes dans un tissu sain, encore une fois, je vous l'ai dit, vous avez un endothélium vasculaire qui est jointif. Les particules ne passent pas, elles ne peuvent pas diffuser dans les tissus au niveau distal. Par contre, et ceci est quand même une chance que la nature nous a donnée, au niveau d'une tumeur, au niveau d'un organe infecté, vous avez une réaction inflammatoire, vous avez donc toute une série de relargages de cytokines, de molécules de l'inflammation, qui vont entraîner, vous le voyez, un endothélium vasculaire qui va être beaucoup plus perméable. Et le résultat, eh bien, c'est un peu comme, je dirais, un tuyau qui est percé. Eh bien, vos liposomes de deuxième génération, vos nanoparticules, vous le voyez, vont pouvoir diffuser de manière extrêmement sélective au niveau de cet endothélium vasculaire tumoral qui est beaucoup plus perméable que l'endothélium vasculaire normal. Alors, je voudrais simplement vous démontrer cela par une expérience que je trouve tout à fait remarquable qui a été faite assez récemment par une équipe de Japonais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donc utilisé des animaux porteurs de tumeurs. Ils ont utilisé, vous le voyez, des liposomes pégylés en A et en B, et ils ont mis dans ces liposomes pégylés un colorant fluorescent, simplement parce qu'à l'aide d'un microscope à fluorescence, ça leur permet de suivre, je dirais, la distribution de ces liposomes dans la tumeur, dans l'organisme. Et ils ont comparé cette distribution en C avec des liposomes normaux non pégylés. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'au niveau de la tumeur, ici on est au niveau de la tumeur, 5 minutes après l'injection, vous voyez que l'essentiel de la fluorescence associée au liposome recouvert de PEG est dans le torrent vasculaire, parce que c'est très vite après l'injection. Mais vous voyez que ces liposomes vont extravaser au niveau du tissu tumoral, vous le voyez ici. Il y a un passage des liposomes à travers l'endothélium vasculaire au niveau tumoral. Et si vous attendez 4 heures, eh bien vous voyez que vous n'avez plus de fluorescence vasculaire, donc les liposomes ont totalement quitté la circulation générale. Et au contraire, vous voyez qu'ils se sont concentrés essentiellement au niveau du tissu tumoral. Donc je dirais que la vectorisation au niveau tissulaire a été réussie dans ce cas-là. Et vous pouvez bien entendu remplacer la substance fluorescente par un médicament. Et vous voyez que vous allez aller dans la tumeur. Qu'en est-il avec les liposomes non pégylés? Eh bien, vous voyez que ces liposomes, quelques minutes après l'injection, on va les retrouver dans le torrent circulatoire au niveau de la tumeur, mais il n'y a pas d'extravasation dans le tissu tumoral, donc pas de relargage du médicament dans le tissu tumoral. Et après 4 heures, eh bien, je ne peux rien vous montrer parce qu'on ne voit plus rien, simplement parce que tous ces liposomes, ils sont captés effectivement dans ce cas-là par essentiellement les macrophages du foie. Donc, vous voyez que cette pégylation a été très efficace. Et les quelques diapositives suivantes sont encore plus démonstratives. Alors ici, l'expérience a été la suivante. On a utilisé des animaux de laboratoire et on a regardé à 2 endroits après administration de ces liposomes pégylés. Ici, on n'a que des liposomes pégylés. On a regardé au niveau d'un tissu sain, le muscle en l'occurrence, et au niveau de la tumeur. Alors, dans la partie supérieure de la diapositive, en D et en E, vous voyez ce que l'on voit au niveau du tissu sain. Eh bien, tous les liposomes fluorescents se retrouvent dans la circulation générale. 10 minutes après l'administration, et ici, si je me rappelle bien, 4 ou 8 heures après l'administration. Il n'y a pas d'extravasation. Encore une fois, parce que l'endothélium, du tissu normal, il est jointif, il ne laisse pas passer les liposomes. En revanche, vous le voyez, si on regarde en F et en G au niveau de la tumeur, eh bien là, vous n'avez plus de liposomes dans la circulation générale et tous ces liposomes avec leur contenu en fluorescence, eh bien, ils ont extravasé au niveau de la tumeur. Donc, vous voyez que l'on a ciblé le tissu tumoral et qu'on a, au contraire, on n'a pas ciblé les tissus normaux. Et ceci nous permet d'espérer, bien entendu, des traitements plus efficaces et avec, évidemment, moins de toxicité, étant donné qu'on a une sélectivité de relargage du médicament. Autre exemple, je dirais, d'une autre pathologie que l'on peut éventuellement essayer de traiter, c'est l'encéphalomyélite allergique. Et évidemment, on s'est intéressé à un modèle expérimental. Et là aussi, ce sont des travaux qui ont été faits très récemment dans notre laboratoire. Alors, vous savez que la barrière hémato-encéphalique est une barrière qui est extrêmement difficile à passer. Il y a il y a aucune macromolécule qui passe, il n'y a aucun système particulier qui passe. Et par contre, quand vous avez une pathologie, vous le voyez, comme l'encéphalomyélite allergique, eh bien, vous avez une réaction inflammatoire, vous avez une augmentation de la perméabilité de l'endothélium vasculaire au niveau du cerveau, au niveau de la barrière hémato-encéphalique, et vous avez des possibilités de pénétration et de passage. Alors, ceci vous est très bien illustré sur cette diapositive. Vous voyez que si vous injectez à ces animaux malades des nanoparticules pégylées, alors les animaux malades sont en rouge, eh bien, vous voyez que vous allez diffuser de manière extrêmement efficace au niveau du cerveau et essentiellement, vous le voyez ici, au niveau de la moelle épinière, parce qu'on sait que la réaction inflammatoire est importante à ce niveau-là. En revanche, si vous utilisez les mêmes vecteurs, mais que vous administrez à ce que l'on appelle des animaux contrôles, c'est-à-dire à des animaux qui ne sont pas malades, c'est ce que vous voyez ici en jaune, peu importe, ou en blanc, eh bien, vous voyez que la pénétration du vecteur est beaucoup moins importante. Et donc, là aussi, vous voyez qu'à travers cette décoration des particules à l'aide de chaînes flexibles et hydrophiles de polyéthylène glycol, vous allez faire de l'extravasation sélective au niveau, je dirais, d'un cerveau malade et pas au niveau du cerveau des animaux sains. Alors, on peut évidemment faire ce que l'on appelle de la microscopie, aussi de la microscopie confocale, pour aller voir ce qui se passe dans le cerveau des animaux. On peut, avec des techniques de marquage diverses et variées, vous voyez marquer en rouge, par exemple, les macrophages du cerveau, et marquer en fluorescence les particules, eh bien, vous voyez qu'on retrouve ces particules à l'intérieur du tissu cérébral, et que dans certains cas, c'est ce que vous voyez ici et là, eh bien, en fait, ces particules ont été captées par des macrophages suite à la réaction inflammatoire. Et ce sont en fait ces macrophages, c'est un petit peu plus compliqué, qui ont passé la barrière hémato-encéphalique pour décharger, je dirais, leur contenu en particules au niveau du tissu cérébral. Et donc, vous voyez qu'on a là aussi des navettes, des outils qui vont probablement permettre dans le futur de délivrer au niveau du cerveau, pour certaines maladies, où il y a une perméabilité de la barrière hémato-encéphalique qui est accrue, pour délivrer au niveau du cerveau des molécules qui, normalement, ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne, vous l'avez compris, la distribution tissulaire, c'est-à-dire la distribution entre différents organes, différents tissus, le foie, le tissu sanguin, la tumeur, le cerveau. Maintenant, vous savez qu'il y a un autre niveau de sélectivité, c'est évidemment la cellule. Un tissu est constitué, bien entendu, d'un ensemble de cellules et de cellules qui sont parfois différentes. Alors, est-ce qu'il est possible, si vous avez bien vu qu'on pouvait cibler un tissu, est-ce qu'il est possible au sein d'un tissu de cibler une cellule bien particulière? Eh bien, la réponse maintenant est oui, grâce aux progrès formidables qui ont été faits, vous le savez, par la génétique, par la biologie moléculaire, par la biologie cellulaire, puisque nos amis les biologistes, eh bien, ont identifié, vous voyez, c'est ce que j'ai représenté ici, un certain nombre d'antigènes, un certain nombre de marqueurs, un certain nombre de récepteurs, en rouge, que l'on va retrouver sélectivement au niveau des cellules tumorales, et vous le voyez, que l'on ne va pas retrouver au niveau des cellules saines. Alors, ça a donné, bien entendu, des idées aux pharmaciens qui essayent de faire de la vectorisation, c'est de dire, utilisons nos nanotechnologies, nos liposomes, nos nanoparticules qui sont pégylées, et en faisant de la chimie de couplage un petit peu astucieuse, eh bien, essayons, vous le voyez, de décorer ces liposomes ou ces nanoparticules par des anticorps, par des peptides, par éventuellement des petites molécules qui vont être capables de reconnaître sélectivement ces épitopes tumoraux, ces antigènes tumoraux, et pas évidemment les cellules qui ne portent pas ces antigènes. Alors là aussi, je voudrais vous illustrer cette approche par quelques travaux qui ont été faits au sein de notre unité CNRS et où on a essayé en fait de faire de la vectorisation en utilisant effectivement des petites molécules et notamment l'acide folique. Pourquoi l'acide folique? Eh bien, parce qu'il faut savoir qu'un certain nombre de cellules tumorales, comme vous le voyez ici, hyperexpriment, et vous le voyez très très bien schématisé en rouge, hyperexpriment ce que l'on appelle le récepteur de l'acide folique. C'est-à-dire que, notamment, les carcinomes ovariens et beaucoup de tumeurs de l'ovaire, eh bien, ont un marqueur sélectif qui est le récepteur de l'acide folique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ce récepteur va reconnaître son ligand, donc que vous aurez formation, vous le voyez ici, du complexe récepteur ligand, eh bien, en fait, ce complexe va être internalisé par la cellule. C'est-à-dire que, vous voyez, la membrane cellulaire va s'invaginer et on va retrouver, vous le voyez, le récepteur et le ligand dans ce que l'on appelle un endosome. On y reviendra, c'est une vacuole d'endocytose. Et parce que le recyclage de ce ligand de l'acide folique à la surface de la cellule provoque l'ouverture de ces vacuoles d'endocytose, eh bien, le ligand va être libéré ici au niveau du cytoplasme cellulaire. Donc, vous voyez que si vous choisissez une bonne cible qui est spécifique d'une cellule cancéreuse, et si cette cible est internalisée par la cellule, vous avez un moyen absolument fantastique de faire rentrer dans la cellule des systèmes, des médicaments, des vecteurs qui ne vont pas s'y accumuler spontanément et de le faire rentrer de manière spécifique. Alors, un petit peu de chimie quand même, et je m'en excuse, et c'est un petit peu ce que l'on a fait. Tout simplement en essayant de développer un système original de nanoparticules, vous le voyez, décoré par de l'acide folique pour aller reconnaître ces récepteurs sélectifs des cellules cancéreuses. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, on a fait tout simplement, vous le voyez ici, un copolymère, exactement le même copolymère dont je vous parlais tout à l'heure, qui est, désolé pour le nom, mais un copolymère de polyéthylène glycol, cohexadécyl cyanoacrylate. Simplement, ce qu'il est important de retenir, c'est que l'hexadécyl cyanoacrylate, qui est ici, c'est une partie du polymère qui est très hydrophobe. Vous la mettez dans de l'eau, eh bien, ce polymère va former un cœur hydrophobe que j'ai représenté ici en jaune. La partie hydrophile, vous le voyez ici, c'est le polyéthylène glycol. Eh bien, lui, vous le voyez, il va se mettre en surface de la particule, simplement parce qu'il aime l'eau. Donc, il ne va pas se mettre dans le cœur hydrophobe. C'est la partie hydrophile. Et l'astuce a été d'utiliser un polyéthylène glycol avec un groupement aminé. Et vous savez qu'on peut faire réagir le groupement aminé avec la fonction carboxylique située à ce niveau-ci de l'acide folique. Et le résultat, c'est que si vous avez des groupements, des chaînes de PEG avec un groupement aminé, eh bien vous allez pouvoir coupler, vous le voyez, à l'extrémité de ces chaînes PEG, le fameux acide folique qui va servir de tête chercheuse pour reconnaître les tumeurs. Pour reconnaître les tumeurs, alors vous allez le voir, pour le démontrer, eh bien, on a utilisé plusieurs types de cellules. Des cellules qui vont cancéreuses, qui vont hyper-exprimer le récepteur de l'acide folique, et des cellules qui ne vont pas exprimer ce marqueur tumoral, ce récepteur que l'on va essayer de cibler, de viser. Alors, pour cela, eh bien, vous voyez, on a utilisé quatre types de lignées cellulaires, peu importe les noms, et on a fait un Western blot, c'est-à-dire qu'on a regardé les lignées qui hyper-exprimaient le récepteur de l'acide folique. Et on a sélectionné deux lignées. Vous voyez la lignée 2 ici, qui s'appelle, ce sont les cellules KB, ce sont des cellules cancéreuses qui hyper-expriment l'acide folique. Et en 4, vous voyez ici, une cellule que l'on appelle MCF7, qui est aussi une cellule cancéreuse, mais qui n'hyper-exprime pas le récepteur de l'acide folique. Et on a regardé si nos fameuses nanoparticules, je dirais, vectorisées avec cette tête chercheuse qu'est l'acide folique, sont capables de reconnaître sélectivement ou pas, ces cellules tumorales. Eh bien, la réponse est oui. Et voici l'expérience que nous avons faite. Alors, tout d'abord, ce qui se trouve dans cette partie-ci de la diapositive, donc KB, là, là et là, c'est simplement la visualisation des cellules, c'est-à-dire qu'on a mis un marqueur des membranes simplement pour voir les cellules en microscopie à fluorescence. Et puis, ces cellules, eh bien, ce sont les cellules KB qui hyper-expriment le récepteur de l'acide folique, je vous le rappelle, et les cellules MCF7 qui n'hyper-expriment pas le récepteur de l'acide folique. Et vous voyez que si vous utilisez des nanoparticules pégylées, mais non folatées, fluorescentes, que vous incubez ces particules d'une part avec les cellules KB et d'autre part avec les cellules MCF7, vous n'avez rien. Il n'y a pas de reconnaissance, simplement parce qu'il n'y a pas d'élément qui permet d'amener ces particules sélectivement au niveau du récepteur. Par contre, et c'est ce que vous voyez dans la partie droite de la diapositive, si vous utilisez les nanoparticules décorées d'acide folique, eh bien vous voyez que dans ce cas-là, vous allez reconnaître de manière extrêmement sélective les cellules KB qui hyper-expriment le récepteur de l'acide folique, qui ont ce fameux marqueur que l'on a voulu viser. Et d'autre part, eh bien, vous voyez que ces mêmes nanoparticules ne vont pas du tout aller au niveau des cellules MCF7. Alors là aussi, on peut remplacer, bien entendu, l'agent fluorescent qu'on a utilisé pour suivre les nanoparticules par un médicament, et vous verrez que vous allez délivrer votre médicament au niveau des cellules cancéreuses qui hyper-expriment le récepteur de l'acide folique et pas au niveau des cellules normales. Il faut passer maintenant in vivo chez l'animal. Nous n'en sommes pas encore là, mais je dirais que le concept de vectorisation à l'échelle cellulaire, la possibilité d'utiliser ces nanotechnologies pour faire réellement du tri cellulaire, eh bien c'est quelque chose qu'on peut faire techniquement à l'heure actuelle. Alors, je voudrais terminer cette présentation en abordant toujours après administration de ces nanotechnologies par voie intraveineuse, essayer de répondre à la question, peut-on utiliser ces systèmes pour contrôler cette fois-ci non plus la distribution tissulaire, non plus la distribution cellulaire, mais à l'intérieur même de la cellule, la distribution subcellulaire. Alors, première chose qui est importante, et première question qu'on doit bien connaître, que se passe-t-il lorsqu'on prend un vecteur de première génération, liposome ou nanoparticule, sans PEG, sans acide folique, et qu'on incube ces systèmes avec des cellules? Eh bien, vous allez le voir, la première étape, ça va être ce que l'on appelle une étape d'endocytose, c'est-à-dire que vous le voyez, la membrane cellulaire va s'invaginer et on va retrouver, en l'occurrence ici, le liposome, vous le voyez, dans ce que l'on appelle un endosome. C'est une vacuole d'endocytose qui ne contient pas d'enzymes et donc qui, dans un premier temps, se trouve être à pH neutre. Et vous voyez que là, le liposome, eh bien, il va se trouver dans ces vacuoles d'endocytose. Et le médicament que j'ai représenté en vert et qui se met dans la bicouche de phospholipides, eh bien, il n'est pas relargué. Il est dans l'endosome. Mais il faut savoir, et ça, c'est un peu, je dirais, toute la physiologie de digestion de la cellule, ces endosomes, eh bien, ils vont, vous le voyez, s'acidifier. Et au fur et à mesure qu'ils vont s'acidifier, eh bien, ils vont entraîner petit à petit la dégradation du liposome. Et vous le voyez, un petit peu de relargage du principe actif. Et plus tard, eh bien, sans rentrer dans le détail, il y aura des processus de fusion entre ces endosomes et les lysosomes qui vont apporter un contenu enzymatique important, notamment des lipases, qui vont hydrolyser les phospholipides, qui vont déstructurer le liposome et entraîner la libération du médicament dans ces fameux lysosomes, dans ces fameux endosomes. En d'autres termes, quand vous incubez ces vecteurs avec des cellules, ils sont internalisés par la cellule, ils sont endocytés, on les retrouve dans des endosomes, dans des phagosomes, dans des lysosomes. Alors, est-ce que ceci peut être intéressant? Eh bien, oui, tout à fait. Et ceci vous est montré par une autre diapositive d'un travail qui a aussi été fait chez nous. C'est une photo du Guet Alfandari, où on a effectivement, vous le voyez, infecté des macrophages. Je vous ai dit que quand on injecte des nanoparticules, elles sont opsonisées. Eh bien, quand on a une infection bactérienne, les bactéries sont aussi opsonisées par les mêmes opsonines, fibronectine, fragment FC des immunoglobulines, éléments du complément. Et ceci entraîne, je dirais, une reconnaissance des bactéries par les macrophages et une internalisation de ces bactéries par les macrophages. Alors, vous voyez très, très bien ici, c'est une photo magnifique, je dirais, une bactérie intracellulaire qui est en cours de division. Ça, c'est un lysosome ou un endosome. Vous voyez très, très bien que la bactérie se multiplie. Vous avez ici une bactérie, ici une seconde bactérie. Et puis, on a traité ces macrophages infectés par des nanoparticules qui sont captées par endocytose. C'est un peu le cheval de Troie, si vous voulez, qui rentre dans les cellules. Et vous le voyez, eh bien, ces particules, vous en voyez une ici, vous en voyez une autre là, vont en fait être capables de cibler ces bactéries au niveau essentiellement endocellulaire et je dirais dans les mêmes compartiments intracellulaires que les bactéries. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je peux vous dire que lorsque l'on charge ces nanoparticules avec des antibiotiques, eh bien, on peut tuer ces bactéries intracellulaires. Et ça peut avoir des applications, notamment dans le traitement des maladies opportunistes associées au syndrome d'immunodépression, par exemple, simplement parce que, dans ce cas-là, les macrophages ont tendance à se multiplier au niveau intracellulaire. Et je dirais que les bactéries, ont tendance à se multiplier à l'intérieur des macrophages. Et les macrophages servent réellement de sanctuaire pour la multiplication de ces bactéries. Et donc, vous voyez qu'avec des nanoparticules chargées en ampicilline, par exemple, on peut aller débusquer ces bactéries intracellulaires. Alors, maintenant, autre question. Eh bien, il est évident qu'on veut parfois cibler d'autres compartiments intracellulaires. Est-ce qu'on peut développer des systèmes intelligents qui vont permettre le ciblage d'autres compartiments? Eh bien oui, vous avez ici des liposomes, vous le voyez, à base de DOP, peu importe, c'est de la diphosphatidylethanolamine. Ce sont des liposomes qui sont dits pH sensibles, qui dans un premier temps vont être internalisés par la cellule par endocytose et qu'on va trouver dans un endosome. Mais vous savez que l'endosome va s'acidifier. Et du fait que ce liposome est pH sensible et qu'il va être sensible au pH, quand l'endosome va s'acidifier, eh bien, vous le voyez, les phospholipides de ces liposomes vont entrer en contact, qui sont représentés ici en rouge, vont entrer en contact avec les phospholipides de la membrane du lysosome ou de l'endosome. Et parce que ces phospholipides sont très particuliers, eh bien, vous le voyez ici, ils vont finir par se mélanger entre eux et former ce que l'on appelle, là aussi c'est du jargon, des phases dites hexagonales. Et la formation de ces phases hexagonales va entraîner, vous le voyez, une véritable fusion entre la bicouche des phospholipides du liposome pH sensible et la bicouche des phospholipides du lysosome. Et le résultat, c'est que le petit liposome il va s'ouvrir et il va permettre le relargage de son contenu, non plus au niveau de l'endosome, mais vous le voyez, au niveau du cytoplasme cellulaire. Alors, je dirais, comment peut-on expliquer cela à l'échelle moléculaire? C'est encore de la physico-chimie. Vous voyez que quand on prend ces liposomes de DOP et qu'on est à pH neutre, ils forment les phospholipides, là vous voyez en agrandi les phospholipides de ces liposomes, ils forment ce que l'on appelle des phases lamellaires, c'est-à-dire des bicouches de phospholipides, ils forment des liposomes. Quand le pH est acidifié, eh bien, vous le voyez ici, ces liposomes vont se transformer, vont s'organiser différemment à l'échelle supramoléculaire et ils vont former ce que l'on appelle des phases hexagonales. Et ce sont ces phases hexagonales qui entraînent les processus de fusion. Alors, simplement pour vous convaincre que ce type de nanotechnologie, que ces liposomes, que je pourrais qualifier d'intelligents, permettent de cibler le cytoplasme cellulaire plutôt que les lysosomes ou les endosomes, eh bien, vous en avez ici un exemple très démonstratif. On a utilisé tout d'abord des liposomes non pH sensibles avec de la diolylphosphatidylcholine, de l'acide oléique et du cholestérol. Et vous voyez que si on met encore une fois un colorant fluorescent, eh bien, ces liposomes vont dans les endosomes, dans les phagosomes, dans ces vacuoles d'endocytose. Vous prenez les mêmes liposomes, mais vous remplacez la diolylphosphatidylcholine par de la diolylphosphatidyléthanolamine. À pH acide, dans les endosomes, vous allez protoner la fonction aminée. Le résultat, c'est que vous allez avoir des phases hexagonales et que vous allez avoir le relargage du contenu du liposome, non plus dans les endosomes, mais dans le cytoplasme cellulaire. Donc, vous voyez qu'on est parvenu effectivement à moduler, à modifier la distribution, cette fois-ci intracellulaire, d'un médicament. Alors, est-ce que ceci a un intérêt en thérapeutique? Eh bien, oui. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans toute la problématique de la thérapie génique et de l'administration, notamment d'oligonucléotides antisens. Alors, vous savez que les oligonucléotides antisens sont des courts fragments d'ADN ou d'ARN qui vont pouvoir se combiner, vous le voyez, avec certaines séquences du gène pour former ce que l'on appelle des triples hélices, ou encore se combiner, comme vous le voyez ici, avec des séquences d'initiation de type AUG de l'ARN messager ou avec toute autre séquence de l'ARN messager, étant entendu que l'ARN messager est localisé, vous le savez, essentiellement dans le cytoplasme cellulaire. Et si vous arrivez à amener ces oligonucléotides antisens, qui ont donc des séquences complémentaires de l'ARN messager dans le cytoplasme, eh bien, vous allez pouvoir éteindre, vous allez pouvoir inhiber de manière extrêmement sélective l'expression d'une protéine virale ou d'une protéine cancéreuse. Démonstration de cela, une seule expérience, et ce sera ma dernière diapositive. On a utilisé des oligonucléotides antisens orientés contre ce que l'on appelle le codon AUG, c'est-à-dire le codon d'initiation du gène ANF d'un rétrovirus qui est le rétrovirus de Friant. Si vous incubez ces oligonucléotides, vous le voyez ici en rouge pointillé, avec des cellules infectées, eh bien, vous n'avez aucun effet, vous n'avez pas d'inhibition de la multiplication du virus. Parce que ces fragments d'acide nucléique sont très sensibles aux nucléases, sont immédiatement dégradés dans les milieux de culture et ne rentrent pas dans les cellules. Si vous prenez maintenant des liposomes normaux, vous voyez en vert, eh bien, vous allez protéger les oligonucléotides, les faire pénétrer à l'intérieur de la cellule, mais dans un mauvais compartiment, dans les endosomes. Et donc, vous aurez un effet d'inhibition virale, mais vous le voyez, qui est seulement de l'ordre de 50%. Si vous prenez les liposomes intelligents, pH sensible en rouge, et on a fait ça avec Claude Malvy à Villejuif, eh bien, vous le voyez très, très bien, on va avoir une importante inhibition virale et on va même atteindre des taux d'inhibition qui sont proches de 80 à 90%. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en vous montrant que finalement, toute cette avancée formidable dans le domaine des technologies eh bien, ouvre des perspectives considérables dans le domaine du traitement de certaines maladies. Que ces outils, quand on en maîtrise bien la chimie, la physico-chimie, la décoration de surface, je dirais, eh bien, vous permettent de cibler des médicaments au niveau de certains tissus, tout d'abord, ensuite au sein des tissus, au niveau de certains organes, au niveau de certaines cellules, et au sein des cellules, au niveau de certains compartiments subcellulaires, comme par exemple le cytoplasme ou les endosomes. Et avant de terminer, vous imaginez que ce genre de travail, c'est évidemment pas celui d'un seul homme, mais évidemment d'une équipe, voire même de plusieurs équipes. Et donc, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les personnels de l'UMR CNRS 9612, puisque notre équipe regroupe à peu près une centaine de personnes, avec, vous le voyez, un certain nombre de collègues dont j'ai cité les travaux à l'occasion de cette conférence. Je voudrais aussi remercier à la fois des biologistes comme Claude Malvy ou, je vous l'ai dit, le groupe de Jean D'Angelo, Didier Desmaël, qui nous ont très largement aidés pour la réalisation, effectivement, de tous les aspects de chimie de synthèse de ces nouveaux vecteurs. Je vous remercie pour votre attention.
Au sujet de la vascularisation des tumeurs, je crois me rappeler que cette vascularisation est due à l'expression de certains gènes cellulaires. D'une part, je voulais vous demander, est-ce que cette hypervascularisation est diminuée par les techniques que vous employez ? Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut penser que cette diminution de vascularisation est favorable pour la destruction du cancer ? D'autre part, je voulais vous demander si, en fait, les techniques employées actuellement permettaient de jouer sur l'expression des gènes dont je vous ai parlé.
Oui, alors, tout à fait. Effectivement, donc, bien entendu, les tumeurs, par définition, sont hypervascularisées. Et bon, ce sont des travaux que notre groupe n'a pas réalisés, mais que certains autres groupes ont réalisés. Et l'idée, par exemple, d'encapsuler dans ces systèmes soit des facteurs anti-angiogéniques, c'est-à-dire qui vont réduire effectivement la multiplication vasculaire au niveau de la tumeur, soit éventuellement, et ça a été réalisé par une équipe américaine, des oligonucléotides antisens qui vont bloquer effectivement certains facteurs de croissance angiogénique et qui, dans certains cas, peuvent effectivement réduire le processus de l'angiogénèse. Mais je dois vous dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore réellement, en termes thérapeutiques cette fois-ci, alors ça marche sur des modèles expérimentaux, mais en termes thérapeutiques, il n'y a pas encore, je dirais, réellement d'activité totalement convaincante dans ce domaine-là.
Je voulais vous demander, vous avez dit que quand on cible à l'intérieur de la cellule, donc le ciblage subcellulaire, cela peut empêcher l'expression de certaines protéines grâce à l'inhibition de certaines portions d'ARN messager. Donc est-ce qu'on peut penser à inhiber carrément des gènes ou des groupes de gènes qui pourraient provoquer des maladies, les myopathies ou certaines maladies génétiques graves?
Alors, si vous voulez, ça c'est évidemment une question extrêmement importante. Si vous voulez, il y a deux approches avec ces vecteurs. On peut d'une part envisager effectivement de ce que l'on appelle transfecter des cellules, c'est-à-dire utiliser ces nanotechnologies pour amener à l'intérieur de la cellule, je dirais, des ADN, par exemple, qui sont, ou un gène qui est un gène manquant. Alors, ça, c'est une approche, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est une approche qui est extrêmement développée à l'heure actuelle. Et il y a notamment le groupe de Jean-Paul Baer à Strasbourg qui fait des travaux tout à fait remarquables dans ce domaine-là et qui est parvenu à développer, encore une fois, je n'ai pas eu le temps de vous en parler ici, ce que l'on appelle des éponges à protons, c'est-à-dire des systèmes de polymères cationiques qui condensent l'ADN, qui permettent, je dirais, un relargage d'abord cytoplasmique de l'ADN, et en mettant au bout de ces ADN ce que l'on appelle des peptides de signalisation nucléaire, eh bien, on a montré, notamment par des techniques de fluorescence, que ces ADN peuvent reconnaître certains récepteurs de la membrane nucléaire et donc donner lieu à des taux de transfection intéressants, notamment avec des gènes rapporteurs. Donc ça, c'est un aspect, c'est celui, on va utiliser ces nanotechnologies pour transfecter, pour amener un nouveau gène. Alors, l'autre aspect dont je vous ai parlé, c'est l'inverse. On ne va pas faire rentrer un gène manquant, mais au contraire, on va choisir une séquence d'ARN ou d'ADN complémentaire de l'ARN ou d'ADN, je dirais, intracellulaire, cette fois-ci, au contraire, pour éteindre ce gène et pour empêcher que ce gène s'exprime. Et en général, eh bien, dans ce cas-là, ce sont souvent, on s'adresse principalement à des pathologies, bien entendu, cancéreuses, puisque vous avez l'expression d'une protéine cancéreuse. Si vous connaissez, et c'est évidemment je dirais, le gros avantage qu'on a à l'heure actuelle avec le décodage du génome, avec la meilleure connaissance de toutes ces maladies sur le plan génétique, on peut identifier les séquences. À partir de là, on peut synthétiser les fragments complémentaires de ces séquences. Si on peut les distribuer correctement à l'intérieur de la cellule, eh bien, on va avoir, je dirais, une reconnaissance sélective du gène que l'on veut éteindre, et on va effectivement éteindre de manière tout à fait spécifique des protéines virales, des protéines cancéreuses. Ce qui est ce que je considérais comme une réelle révolution, si ça marche, en termes de thérapeutique, parce que vous savez que les médicaments anticancéreux classiques, ce sont des molécules qui sont très efficaces, il faut bien le dire, en tous les cas efficaces, mais extrêmement toxiques. Et donc, au contraire, si on arrive à valoriser ces systèmes de type oligonucléotide antisense, on aura des molécules qui sont pratiquement non toxiques, puisqu'elles ne vont éteindre que l'oncogène qui va être responsable du cancer.
Au début de votre conférence, vous avez parlé de trois particules,
oui,
les
oui.
liposomes, les nanoparticules et les nanosphères.
Oui.
Qu'en est-il de ces dernières, notamment pour la composition de la périphérie de la particule ? Et d'autre part, est-ce que les méthodes dont vous nous avez parlé sont couramment utilisées ou est-ce qu'elles sont encore à l'état expérimental, s'il vous plaît ? Merci, monsieur.
Voilà. Alors, pour la première partie de votre question, donc effectivement, il y a les liposomes et puis il y a les nanoparticules qui sont des systèmes polymères. Dans les nanoparticules, vous avez deux sous-systèmes, je dirais, les nanosphères ou les nanocapsules. Hein? Bon. Alors, comment peut-on les décorer ? C'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous montrer en faisant de la bonne chimie. C'est-à-dire, par exemple, en faisant des copolymères de polyacide lactique coglycolique, de cyanoacrylate avec un polyéthylène glycol. Quand vous prenez ce copolymère, vous le mettez dans de l'eau, eh bien, il va s'auto-organiser de manière tout à fait spontanée avec son cœur hydrophobe, c'est-à-dire la partie hydrophobe du polymère à l'intérieur, dans lequel on va mettre les médicaments, et avec la partie hydrophile à l'extérieur. Donc je dirais que les nanoparticules ne posent pas plus de problèmes que les liposomes en ce qui concerne la décoration externe, donc les éléments de reconnaissance aussi, de vectorisation, etc. Alors maintenant, est-ce que ces technologies nanoparticulaires, puisque c'était votre question, sont effectivement développées en thérapeutique, hein. Alors, il n'y a pas encore de médicaments. Alors, c'est pas la troisième. Donc, vous avez les nanoparticules. Ça, c'est l'ensemble des systèmes particuliers quand on ne définit pas la morphologie. Alors, dans les nanoparticules, vous avez deux types de systèmes, le système matriciel nanosphère et le système nanocapsule, qui est un système réservoir. Alors, effectivement, le système nanosphère, hein, donc je vous disais, vous pouvez le décorer de PEG, etc. Bon, c'est ce que l'on a fait. Ça ne pose pas. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça ne pose pas plus de problèmes techniques sur le plan de la chimie, sur le plan de la physico-chimie que les liposomes. En revanche, ce sont des vecteurs qui sont plus récents. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de médicaments à l'heure actuelle à base de ces systèmes nanoparticulaires, donc polymères, contenant par exemple un médicament anticancéreux. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une chimie assez complexe. Il faut avoir, je vous l'ai indiqué, des polymères biodégradables. Vous devez vérifier que ces polymères ne sont pas toxiques, qu'ils se dégradent au bon endroit, c'est-à-dire, par exemple, dans le lysosome, etc., et que les produits de métabolisation de ces polymères ne sont eux-mêmes pas toxiques, ne sont pas mutagènes, ne sont pas carcinogènes, etc. Et donc, il a fallu faire, évidemment, toutes ces recherches-là, toutes ces études-là, avant de commencer des essais cliniques. Alors, à l'heure actuelle, cette technologie qu'on a développée, d'ailleurs, au laboratoire, eh bien, c'est une petite start-up, une petite société qui l'a prise en charge pour la développer, qui a fait ce que l'on appelle des lots cliniques et qui actuellement, mais là, ça dépasse évidemment, le travail du chercheur, donc cette société est en train maintenant de tester ces systèmes nanoparticulaires renfermant un anticancéreux qui est la doxorubicine sur un certain nombre de tumeurs en clinique phase 2. Donc, ça n'est pas encore, si vous voulez, un médicament qui est sur le marché, mais ce sont des technologies qui sont à l'heure actuelle expérimentées. Et il y en a d'autres.
Bien, nous allons nous en tenir là. Merci beaucoup.
Merci.